Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir. Les Poètes, une émission de Christian Saint-Paul et Claude Bretin. Alors ce soir, nous allons avoir le bonheur de faire cette émission, de réaliser cette émission avec Jean-Pierre Siméon. Jean-Pierre Siméon qui disait « La poésie naît du silence, d'une béance existentielle, produit du silence, c'est-à-dire la latence qu'impose le entre guillemets, différemment du sens. Il est donc logique, dans l'ordre des choses, qu'elle soit de facto interdite d'antenne, sauf sur France Culture et à l'occasion France Inter, Ultime Résistance, c'est bien le moins, ou sur quelques radios, naguère nommées à raison, ça n'est la preuve libre. Donc Jean-Pierre Siméon, ce soir, tu es sur une radio dite libre. Et depuis 1983, nous essayons de porter cette voix du poème que tu défends si bien. Jean-Pierre Siméon, bonjour, bonsoir, merci bonsoir. Beaucoup d'être avec nous sur cette antenne de Radio Occitanie. J'ai vu que tu participais également tu as fait la préface d'une belle anthologie des poètes de langue régionale, où l'on a retrouvé, bien entendu, l'ensemble des poètes occitans qui nous sont chers et dont nous parlons ici à Radio Occitanie. Ce qui veut dire que ce phénomène de la langue, y compris de la langue minoritaire, la langue régionale, dite régionale, des minorités régionales, est une de tes préoccupations et qui va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire de cette défense de la langue et de la poésie. Alors pour te présenter brièvement, je dirais que tu es à la fois poète, romancier, dramaturge. On a joué il y a peu de temps Aïe, un poète, ici à Toulouse, au Théâtre du Fil à Plomb, et puis ensuite à la Cave Poésie. Nous avons fait même une émission sur Aïe, un poète avec Anne Rebeschkini. Tu es critique, tu es né en 1950 à Paris, professeur agrégé de lettres modernes. Tu as enseigné à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Clermont-Ferrand, ville où tu as résidé assez longtemps. Et tu es bien sûr l'auteur de nombreux livres de poésie, de romans, également de livres pour la jeunesse et de pièces de théâtre, et puis d'essais. Alors, plusieurs essais. Il y avait des essais sur le théâtre, sur Laurent Terzièf, je crois. Hein.
Oui.
Et alors, des essais, on en a toujours parlé. On a parlé, bien entendu, de la poésie Sauvera le monde. Et je pense qu'on va y revenir peut-être abondamment ce soir. Mais on a parlé avant, et on a fait même une émission spécialement là-dessus, sur ton dernier essai, Les yeux ouverts, propos sur le temps présent, paru au Passeur, donc cette année, en 2018. Puisque le poète, comme tu vas nous le dire, n'est pas quelqu'un d'éthéré, qui n'est pas préoccupé par les préoccupations, qui n'est pas indifférent, bien entendu, à ce qui se passe dans le monde. Voilà. Alors, je vais te laisser la parole, quand même, pour dire que tu dirige actuellement, depuis le mois de janvier, je crois, cette prestigieuse collection poésie des éditions Gallimard, où tu figures, d'ailleurs, bien sûr.
Mm-hmm. Oui.
Et tu as été longtemps le directeur de cet événement, qui a été quand même un événement qui a bousculé un petit peu les traditions du public pour la poésie, qu'on a appelé et qui s'appelle toujours le printemps des poètes.
Voilà. Oui, eh bien, merci de cette longue présentation, Christian. Évidemment,
je l'ai raccourci.
Pardon ? Oui, mais à travers toutes ces activités, toutes ces choses, je ne poursuis qu'un seul but, qui est, à travers la poésie, au fond, contribuer pour ma part, comme vous le faites dans une radio libre, comme on peut le faire de mille façons, contribuer à faire aller les choses mieux, à ce qu'il y ait plus d'humanité dans un monde qui se déshumanise à toute vitesse, qui manifeste malheureusement plein de mauvais penchants, on le voit bien partout, qui se recroqueville, qui est dans la peur, qui est on pourrait dire, dans une sorte de paranoïa comme ça, de l'agression. Donc la poésie, depuis toujours, incarne une objection à ces pentes fatales de la conscience humaine, qui sont les pentes du refermement, de la, on va dire, de la paresse, de la lâcheté, même morale. La poésie a toujours opposé à ça l'exact contraire, c'est-à-dire la perpétuelle recherche de sens neuf, d'horizons nouveaux, et à refonder, elle a cherché toujours à refonder l'homme dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire justement le goût de la découverte, le goût de l'échange, le goût de l'autre, le goût de, on pourrait dire, du grand air, de l'espace. On manque d'air, hein, n'est-ce pas? Alors la poésie est un appel d'air, on va dire, comme ça. Voilà, donc tout ce que je fais, c'est avec d'autres, on voit bien qu'aujourd'hui il y a un profond regain de la poésie. Hier, lundi, on remettait le prix Apollinaire à Paris, au Demago, il y avait un monde comme on n'a jamais vu, et on l'a remis à une jeune femme, d'ailleurs, qui a 27 ans, Cécile Coulon, et donc on voit qu'il y a, moi je le vois tous les jours, parce que je reçois du courrier, parce que je reçois des mails, parce que je rencontre des jeunes gens, que la poésie intéresse de plus en plus, justement, comme je dis, les jeunes, et ça, je trouve ça très encourageant. C'est-à-dire qu'ils entendent, manifestement, ils trouvent dans la poésie, ils entendent dans la poésie, ce contre-ordre, en quelque sorte, dont ils ont besoin. C'est-à-dire une parole ferme, une parole qui peut être critique, qui peut être de colère, qui peut être de désaveu, on peut dire, mais qui est toujours fondée sur une volonté de vie, un désir de défendre ce qu'il y a de meilleur et de plus riche pour nous tous, le désir de vivre pleinement, dans l'absolu, comme Rimbaud le rêvait. Voilà, à peu près, en deux mots, mais tu le sais, en tout cas, le sens de mon combat pour la poésie.
Alors, je retiens de ceci qu'il y a dans la poésie, je crois que tu l'as écrit dans La poésie sauvera le monde, qu'il y a, et c'est ce que je répète hein, depuis 30 ans ici à ce micro, en parlant de la poésie, mais également aussi en parlant de la culture occitane, en disant qu'il y a dans la poésie une éthique. C'est une position aussi éthique. Et je crois que c'est ce que tu dis hein, dans La poésie sauvera le monde.
Oui, hein? Exactement.
Est-ce que tu peux nous développer un peu ça?
Oui, absolument. Moi, je pense que, bien sûr, que le poème, concrètement, c'est important. Je défends les livres de poèmes, je défends la poésie qui relève d'une certaine façon de la littérature, mais il faut jamais oublier que le poème n'est que le reflet, le lieu d'apparition et de partage de quelque chose de plus fondamental en dessous, qui est ce que tu appelles une éthique, et que j'appelle volontiers une éthique, une manière d'être au monde, une manière de se situer dans le monde, humainement. C'est-à-dire comment on habite le monde, comment dans quel type de relation on est aux autres. Et c'est cette façon-là qu'on appelle poésie, qu'on nomme poésie. Qu'est-ce que c'est que habiter poétiquement le monde, comme le voulait Hölderlin, et c'est là que ça devient intéressant. Pour faire simple, je dis toujours que habiter poétiquement le monde, c'est l'exact contraire de la façon dont on nous enjoint aujourd'hui d'habiter le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est soumis à l'obsession de l'avoir, de l'accumulation de l'avoir, à l'obsession du pouvoir, être plus fort, plus grand, avoir plus que les autres, dominer les autres, etc. Et puis l'obsession du paraître, tout est dans l'image, dans la superficie. La poésie, c'est l'exact contraire de tout ça. Il s'agit pas d'avoir, il s'agit d'être mieux, d'être plus intensément vivant. Il s'agit pas de pouvoir, jamais la poésie n'a revendiqué un pouvoir, au contraire, elle est dans l'échange, elle est dans l'éloge de l'autre, comme le faisait André Chédid, par exemple, n'est-ce pas? Et elle est tout le contraire de l'image. C'est-à-dire que là où le monde nous est livré aujourd'hui à travers la surface, dans des informations rapides, éphémères et fragmentaires, la poésie, elle prend le temps d'aller dans la profondeur, dans l'épaisseur du réel. Contrairement à ce qu'on pense, c'est à travers la poésie qu'on a une approche en profondeur de la réalité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la réalité humaine, les visages autour de nous, les gens qu'on rencontre, les peuples, et puis aussi la réalité concrète du paysage, du cosmos, etc. Et depuis toujours, depuis Orphée, on va dire, n'est-ce pas, les poètes ont ce rapport intense, passionné, curieux pour la totalité du réel, pour on va dire, l'entièreté, comme disent les Belges, du réel. Et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Comme on évolue de plus en plus de la réalité, à travers tout un tas de procédés technologiques, de comportements indiqués, on va dire même qu'on nous enjoint aujourd'hui, c'est un totalitarisme mou, on nous enjoint pas avec des fusils, mais on nous enjoint à coup de slogans, à coup de publicité, nos manières de vivre, nos manières de penser. La poésie, elle est, comme je disais, un contre-ordre. Elle est ce qui objecte à ça et revendique toujours pour chacun un cheminement libre dans la réalité et dans le monde.
Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle est considérée comme subversive et un petit peu dangereuse ?
Oui, je crois. Dans toutes les cultures et toutes les sociétés, la poésie est toujours, d'une certaine façon, d'abord, elle est toujours une objection, je veux dire. Elle peut paraître subversive parce qu'elle renverse les préjugés, les opinions communes, les ordres établis, les catégories de pensée. Et la poésie commence comme ça. Après, elle peut être récupérée. Hein. Il y a bien des poèmes après qui sont utilisés pour chanter, je sais pas quoi, la patrie, etc. Mais fondamentalement, la poésie, elle est effectivement subversive, c'est-à-dire qu'elle subvertit, elle retourne les évidences, les conventions, les consensus. Ça, je crois que c'est vrai de tous les poètes, même des plus grands poètes de l'Antiquité. Ils ont toujours gêné les poètes. D'ailleurs, quand il y a des régimes totalitaires, c'est, je l'ai dit souvent, toujours les poètes qu'on met en prison les premiers. Parce qu'ils sont détenteurs d'une chose que nul autre n'a, c'est-à-dire la liberté irréductible de parole. On ne peut pas empêcher la parole d'un poète. Et on voit bien, je vous rappelle l'histoire de Mauricio Rosenkopf, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en Uruguay, je ne sais plus, qui avait été enfermé dans une geôle pendant des années. Et quand je dis une geôle, c'était une petite pièce sans fenêtre avec une lampe qui brûlait sans arrêt 24 heures sur 24, impossible de voir le jour, la nuit. Et dans cette toute, il pouvait même pas s'allonger, je crois. Une sorte de cube comme ça. Et il a survécu. Et il a survécu par la poésie. Et il a écrit des poèmes qu'il inventait dans sa solitude et qu'il se mémorisait comme ça. Et quand il est enfin sorti, il a produit ses poèmes. Et c'est un bel exemple de de la poésie qu'on ne peut jamais empêcher. On ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'inventer de la langue libre. Je crois que ce n'est pas possible.
Alors, tu fais également... Alors, la poésie, on va repartir peut-être un peu sur cette idée. Cette modalité pratique, entre guillemets, de la poésie, puisque tu vas jusqu'à dire qu'elle va sauver le monde. C'est pas rien de sauver le monde.
Oui, c'est une provocation. La formule est une provocation. Le titre, évidemment, il fait sourire ou il fait rire les gens sérieux, et ceux qui se disent sérieux, en tout cas. Et moi, je dis que les gens qui sont reconnus sérieux aujourd'hui, qui se disent sérieux, c'est quoi? Les économistes, les financiers, les politiques, etc. Il faut bien reconnaître que ce sont eux qui nous amènent au point de catastrophe où on est. C'est eux qui nous emmènent dans le mur, excusez-moi de le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors, tu comprends que moi, je dirais peut-être que ceux dont on se moque toujours, les poètes, dont on dit qu'ils sont pas réalistes, qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, etc., peut-être qu'il faut changer de sérieux et les prendre eux au sérieux. Et que on se rend compte que les poètes ne sont pas des rêveurs, comme j'ai toujours dit, je crois. Les poètes, ils prennent le monde à bras le corps, ils s'engagent dans la vie, ils sont des citoyens comme tous les autres, et ils ont justement un regard sur le monde plus juste, c'est-à-dire plus, à mon avis, plus accordé à ce qu'il nous faudrait tous vivre, c'est-à-dire une position non pas de prédateur, de dominateur dans le monde, mais dans cette volonté toujours d'être dans la construction collective, avec les animaux, avec les herbes, avec l'air, avec le vent, avec les autres, avec les gens, etc. C'est-à-dire une sorte d'échange, de sentiment qu'on est tous embarqués dans la même, on pourrait dire la même galère, moi je suis plus optimiste que ça, dans le même vaisseau, n'est-ce pas, qui traverse les âges. Et que le gouvernail, s'il était pris par les poètes, c'est-à-dire que la direction vers laquelle on allait était plus juste, on n'irait pas à la catastrophe comme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que si on prenait comme point d'appui, comme point de référence, comme point d'utopie, une utopie, ça ne se réalise pas par bonheur, ça reste une étoile vers laquelle on va, disons. Si on prenait comme point de référence la position, l'éthique des poètes dont je parlais tout à l'heure, on n'en serait pas là où on en est, moi je crois. On ne serait pas dans ces obsessions de l'avoir, du pouvoir et du paraître. On serait dans une... On penserait socialement le monde, politiquement le monde, on le penserait autrement. Et c'est quand j'ai dit les positions allemandes, j'ai dit, c'est ça, il faut changer complètement nos critères de jugement et nos perspectives. Et si on faisait donc selon le diapason des poètes et de la poésie, alors sans doute qu'on pourrait se sauver. Parce que pour le moment, comme on fait l'inverse, on va à la catastrophe. Donc on n'a rien à perdre, essayons le point de vue des poètes.
Alors dans cet essai, tu pars aussi d'un dogme, quelque part. Puisque, dogme que, je te rassure, je partage à 100%, c'est que, en définitive, l'homme a prise sur son destin. Et que donc, la poésie va être aussi un moyen, de développer l'état de conscience, et deuxièmement, de pouvoir avoir cette prise sur son propre destin.
Oui, c'est vrai. Et moi, j'appelle pas ça un dogme, j'appelle ça une conviction, pour ma part, en tout cas, parce que le dogme a le danger d'être un peu fermé, quoi. Une conviction, c'est fragile, et je crois qu'il faut de la fragilité dans tout ça, mais la conviction, elle est quand même ferme. Oui, je pense que, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, partout que les choses se décident hors de nous, malgré nous, contre nous, loin de nous, etc., On a tous une pensée, deux mains, deux jambes, de quoi agir, de quoi penser, de quoi vivre et de quoi comprendre. Tout le monde, à sa manière, apporte à la compréhension du monde et à l'analyse même des choses. Donc, je crois que la poésie contribue, déjà j'en suis convaincu, et la lecture de la poésie pour le coup, la lecture de ce langage insolite et libre qu'est le poème, elle contribue à, comme disait Roberto Roy-Rose, le poète argentin, à l'accélération de la conscience. C'est-à-dire que la poésie est un effort de conscience. Et qui lit des poèmes fait agir sa conscience et la fait agir de façon neuve, justement. La conscience n'est plus là en état de reconnaître le connu, d'entrer dans les codes et de se fier, on peut dire, au savoir acquis. Le poème propose à la conscience d'être toujours sur des sujets communs à tous, l'amour, la mort, la solitude, le paysage, elle propose toujours d'être dans une appréhension inhabituelle, imprévue. Et c'est cet imprévu qui est dans le poème, cet inconnu vers quoi le poème nous guide, qui ouvre la conscience, qui habitue la conscience justement au neuf, à l'incertain, peut-être à l'inquiétude heureuse. Moi j'appelle ça une inquiétude heureuse, l'intranquillité, disait Pessoa. C'est-à-dire une vraie conscience vivante, une conscience humaine, c'est une conscience vivante, et une conscience vivante, c'est une conscience inquiète. C'est une conscience qui est une conscience qui ne croit pas le sens clos, définitif, déjà donné, mais qui est en quête toujours de sens. Évidemment, si on est en quête, c'est-à-dire qu'on n'a pas, et si on n'a pas, on est d'une certaine façon inquiet. Mais c'est cette inquiétude qui est le sens de la vie, qui est le fait même de la vie. Et donc c'est une belle inquiétude, c'est le fait de partir à l'aventure en quelque sorte. Or la poésie, la lecture de la poésie, l'écoute de la poésie, écoutez seulement quelques vers de quoi d'un poète chinois, d'un poète américain du 19e siècle comme Emily Dickinson, écoutez un poète transtremer le suédois, ou Hugo Dubélé, peu importe, je suis exprès de citer des choses très fortes, n'importe quel poème, dans sa langue étrange, nous parle étrangement, c'est-à-dire de façon nouvelle, de choses qu'on croyait connues. Et il ouvre pour nous les horizons pour tout, pour toutes nos expériences de vie. Il élargit notre façon de sentir et de comprendre le monde. Chaque poème contribue à cet élargissement de la conscience. Voilà ce que je crois. Et donc, et en plus c'est dans le plaisir, c'est dans l'émotion, c'est dans cette émotion aussi qui est l'étonnement. Et parfois ça peut être agaçant, comme qu'on est confronté à des choses imprévues et inconnues, mais en même temps c'est stimulant. Et donc la poésie, oui, je crois, est un lieu d'exercice de la conscience, offert à tous, à tout le monde. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. On écoute un poème de Ronsard ou d'Éluard, on écoute un haïku japonais, et quelque chose pour chacun s'ouvre immédiatement dans la conscience. On sort de nos habitudes de pensée, comme je disais, de nos conventions, de nos consensus, et c'est de conformité. J'appelle ça la règle des trois cons. Oui, excusez-moi, mais Christian, tu comprendras, puisque je crois que votre radio libre, elle est contre la règle des trois cons, justement, n'est-ce pas? Elle se bat contre ça. Donc, il me semble que, et c'est très simple, ça se vérifie, plus on lit des poèmes aux gens, plus on sort du langage normé et des pensées et des préjugés et des fermetures à quoi nous sommes confrontés tous les jours dans des langages clos, les langages des discours dans lesquels nous sommes enfermés chaque jour dans les grands médias, etc. Je m'arrête parce que sinon je vais parler très longtemps et pour respirer quand même.
Alors cet état de conscience, tu as cité Pessoa avec son livre de l'intranquillité. Les gens de notre génération se souviennent du poète suisse Georges Haldas, hein, qui parlait de l'état de poésie. Hein. Oui. Vous avez marqué, notre génération a été marquée par ça. Il y a, dans cet état de conscience, il y a également, c'est pour rejoindre quelque chose, et c'est pour rejoindre cette empathie avec le monde. Et tu dis un peu plus loin, je crois que c'est peut-être dans ce livre sur la beauté, hein, que c'est cette empathie en définitive aussi qui doit être la finalité du poète et du poème.
Oui, tu fais allusion peut-être à mon livre Poétique de la beauté.
Voilà, Poétique de la beauté, oui.
Oui. Qui est un livre de poèmes, oui, et qui est une sorte de prolongement en poème de laisser la poésie sauver le monde. Hein. Oui. Et je voulais redonner un sens plus vigoureux peut-être à ce terme de beauté qu'on emploie à toutes les sauces. Je sais pas si j'ai fait un petit avertissement à ce livre où je définis un peu le terme de beauté. Est-ce que tu veux que je le lise d'ailleurs cet extrait?
Avec plaisir.
Écoute, ça fait pas long. Je dis simplement la fin de cette sorte de préface.
Le dernier paragraphe là.
Oui. De ce livre qui s'intitule Politique de la beauté. Hein. Alors, à un moment, je dis, j'appelle ici beauté tout ce qui, en l'homme, par l'homme et hors de l'homme, exauce le réel et offense la mort. J'appelle beauté l'intransigeant refus opposé à tout ce qui oblitère et dévalue la possibilité de l'amour. J'appelle beauté encore le procès que le cœur intente à l'intelligence froide et aux stratégies du repli. Et j'appelle beauté encore tout ce qui déborde les laideurs obligées et les mesquineries soumises. Je nomme ainsi dans la beauté toute joie conquise, l'effort de la bonté, l'impossible défi de la fraternité, l'audace d'une parole pleine et franche. Voilà, je voulais dire ça parce que voilà ce que signifie pour moi la beauté. C'est ce lieu d'accomplissement de l'humain où on voit bien que c'est un effort par lequel on y arrive, c'est un travail d'émancipation. La beauté, c'est la justesse touchée, obtenue, atteinte par l'effort de conscience, par l'effort d'humanité en chacun de nous. Alors ça peut prendre des formes multiples, n'est-ce pas? Et je crois que la beauté est aussi est un autre nom de la bonté, de la fraternité, de l'effort d'intelligence et de l'effort de création, évidemment.
Et tu finis quand même par dire ceci: je revendique pour la poésie le courage de témoigner contre le nihilisme souffreteux de ce temps, à elle de promouvoir, poème à poème, une politique de la beauté dont le principe est d'incandescence dans la nuit.
Oui, c'est ça, oui. Au fond, derrière le mot beauté, moi je mets un peu cet absolu aussi dont parlait Rimbaud, c'est-à-dire la liberté libre, la vie intense, la vie qui va au bout d'elle-même, dans son étreinte amoureuse du monde, de la vie, des heures qui passent, des jours vécus, etc. Je me dis, il y a évidemment chez moi une impatience devant l'amorosité et la défaite morale du monde dans lequel je vis. Plus qu'une impatience, une révolte, quoi. Et c'est pour ça que je dis, mais que la poésie fasse entendre, en même temps que, parce qu'elle est lucide, la douleur et la violence du temps, et qu'elle la dénonce, qu'elle fasse entendre aussi l'énergie, quoi, qui nous permet de nous opposer à ça. C'est pour ça que je parle de cette incandescence, ce feu, quoi. Voilà, on a besoin d'ardeur aussi. Et l'ardeur, elle n'est pas naïve, elle n'est pas benette. Quand je dis la poésie sauvera le monde, je ne suis pas, évidemment, un benet qui dira « Oh, il suffit de lire des poèmes et tout va s'arrêter du malheur du monde ». Évidemment que non, je suis pas un obscurantiste ni un béotien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans la poésie un ferment essentiel d'énergie et d'ardeur possible. Et que je voudrais que la poésie soit un point d'appui pour la conscience qui se redresse. D'ailleurs, je vais publier un livre bientôt en mars chez Gallimard qui va s'intituler « Levez-vous du tombeau », qui est aussi une injonction à renouer, quoi, avec ce sens vital qui est bien atteint dans nos pays européens quand même. Alors qu'on voit, moi je voyage à travers le monde, il y a des endroits où il y a plus d'énergie et des endroits d'ailleurs plus frappés par le malheur que nous, que nos pays à nous, et où il y a plus d'énergie, plus d'enthousiasme, on va dire, tout simplement plus peut-être d'amour intégral de la vie. Alors que nous, on est ici, on voit bien autour de nous, dans une sorte d'abattement général, on est dans le ricanement, le sarcasme, la hargne, on est des râleurs. Il n'y a pas de révolte, il y a de la hargne. Moi, j'aime pas la hargne, j'aime la révolte. Je me fais comprendre ?
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense que tu rejoins là quand même aussi l'idée de Camus, hein, l'homme révolté.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis le poète, ce que tu dis, tu as une très belle phrase d'ailleurs dans Politique de la beauté, où tu dis qu'il est temps que la poésie reprenne la parole, instruite évidemment du désastre, mais tu mets entre parenthèses, mais s'est-elle jamais dérobée de cette lucidité, dont le poète n'est pas celui qui est aveugle sur la lucidité, au contraire, il a une hyper-lucidité. Et cependant, tu poursuis en disant, contre lui insurgé, au nom de cette vue visée, plus haute, qui ne borne pas le réel, à son manque, et réclame en l'homme l'audace d'un pari pour la vie. Voilà. Voilà.
Oui, voilà, oui, oui. C'est une audace. Et en fait, plus le monde aujourd'hui, dans lequel je vis, le monde intellectuel aussi, pas seulement, on voit bien, en Europe en tout cas, plus on est dans cette sorte d'abandon, de repli frileux, la peur de l'étranger, de l'immigré, plus on est dans cette montée des populismes vaseux, gluants, enfin de ces pensées molles, etc., plus il faut opposer, moi je crois, une énergie, une volonté de réaffirmer contre le malheur la possibilité d'en sortir, quoi, d'un mouvement hors, un mouvement de debout, en quelque sorte, de se dresser. Voilà. Et moi je me souviens toujours de la leçon de Primo Levi, hein, qui sort d'Auschwitz et qui fait, après après Auschwitz qui fait l'effort de reconstruire un humanisme lucide, évidemment lucide, puisqu'il est passé par le pire, l'abjection, mais il est capable de reconstruire une foi en l'homme par exigence, évidemment, très exigeante, une foi en l'homme, malgré Auschwitz. Et moi je dis que aujourd'hui on a bien des malheurs, on voit bien que le monde va très mal, mais on doit pouvoir, dans ce contexte-là, écoutant la leçon de ceux comme Samprin, comme Anthelme, comme Lévy, qui sont passés par le pire, en écoutant leur leçon, on doit pouvoir redresser notre conscience. Et au contraire, ne pas se laisser attraper donc par la boue des idées molles, et au contraire, essayer de retrouver un point d'appui et de se dresser. Voilà ce que je sens personnellement. C'est plutôt une intuition qu'une pensée très construite.
C'est que la phrase d'Adorno, est-ce qu'on peut continuer à écrire de la poésie après Auschwitz? On peut répondre avec fracas, bien sûr.
Hein, oui, ça a été beaucoup commenté, on sait, et puis c'est très contextualisé. Bref, on sait qu'on peut écrire de la poésie après Auschwitz, puisqu'on en écrivait dans Auschwitz, aussi curieux que ça paraisse. En tout cas, elle se manifestait dans Auschwitz, puisqu'on sait bien que dans les camps de concentration, et Primo Levi en parle, on disait des poèmes, on disait des chants ou des prières qui avaient cette valeur de la poésie, c'est-à-dire une valeur, une manière d'affirmer une spiritualité humaine, une pensée, une âme qui allait contre la négation qu'on faisait de l'humain. Et je crois que la poésie signifiera toujours ça, de toute façon. La postulation de l'humain au plus haut contre tout ce qui le dégrade. Voilà, en tout cas, ce que je pense toujours. Ça ne veut pas dire que la poésie, évidemment, elle ne soit qu'éloge, gentillesse et bonté. Hein. Elle n'est pas bénie oui-oui, elle n'est pas mignonne, elle n'est pas douce, elle est incommode, elle est souvent inconfortable. Au nom de la vie, Artaud, il hurle, Antonin Artaud. Voilà, elle peut être aussi, je l'ai dit souvent, vindicative. Mais c'est au nom de la vie, c'est pas au nom d'une soumission à la mort.
Et tu cites Kafka aussi, en disant qu'il faut que la poésie, en définitive, elle doit aussi donner du courage. Quand on n'est pas capable de donner du courage, on doit se taire, disait Kafka.
Oui, c'est Kafka qui disait ça. Oui. J'ai trouvé cette phrase absolument remarquable, parce que c'est ce que je crois. Oui, on a connu, alors ça c'est un point de vue polémique que j'assume complètement, on a connu quand même une période, quelques décennies, de la littérature européenne, et française particulièrement, qui était dans le dépit, l'affirmation perpétuelle de l'échec, c'était la crise de conscience qui a suivi la chute des grandes utopies, qui a suivi deux guerres mondiales, enfin on peut comprendre le contexte. Hein. Alors on a été dans une sorte de grande dépression morale et intellectuelle, on ne croyait plus à rien et on nous enjoignait de ne plus croire à rien. Donc la littérature n'était plus qu'une sorte de bilan désastreux des défaites humaines. Quoi. Et tout était sur ce ton-là. Et donc, moi je pense que, voilà, on ne peut pas s'en tenir là, et qu'il faut dépasser ce grand moment de dépression collective.
C'est une belle leçon d'espérance, en tout cas.
Oui,
Jean-Pierre, nous allons maintenant...
On peut refonder une espérance sans être... Alors, on nous a toujours dit que, moi, dans ma jeunesse, et après, j'ai entendu ça, toujours dans ces mondes intellectuels, créateurs, enfin ceux qui font la pensée, comme on dit, etc., on nous a toujours dit qu'il n'y avait plus de légitimité à l'espérance, que c'était des niaiseries, l'espoir, l'espérance, croire à mieux-être collectif, c'est fini, quoi, on nous disait, moi je suis né à une période où ça s'effondrait, tous ces grands, et moi j'ai toujours pensé que c'est lié à l'humain, donc on ne peut pas s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est qu'une vie sans aucune espérance? C'est plus une vie. L'homme est fait de ça, de l'espérance du pas d'après, du mouvement qui vient, de sortir, quoi qu'il en soit, de l'enfermement, de la solitude où on est de façon naturellement, etc. Donc l'espérance n'est pas une construction intellectuelle de l'homme. On porte ça en nous autant qu'on porte sans doute le contraire, la désespérance, l'abattement, le découragement, etc. Eh bien, c'est sûr qu'on est des êtres complexes et comme ça partagés. Mais je pense que on peut, en toute lucidité, justement, sans être une sorte de d'enjoliveur d'existence, on peut très bien reprendre appui. Que j'utilise souvent cette expression pour se redresser, pour prendre appui sur ce qui peut porter l'espérance, qui est facteur d'espérance. Or, ce sont, on l'a dit souvent, la littérature le dit, même aujourd'hui, des jeunes le font apparaître, ou des moins jeunes d'ailleurs. François exemple, je pense à lui, qui a publié des magnifiques chez Gallimard. Et on peut prendre appui et trouver des raisons d'espérance, parfois simplement en ouvrant sa fenêtre le matin, ou en croisant un visage, ou en respirant un air frais, en se relevant d'une maladie. On éprouve tous cette expérience concrète, banale, ordinaire, qui est l'humain qui renaît. Et des renaissances, nous vivons des morts souvent, des morts vraies, des morts symboliques, des petites morts particulières, etc. Mais nous avons aussi toutes les occasions de renaissance multiple. Et moi je dis que de la poésie, lire un poème, rien qu'un poème, c'est participer de laisser la poésie sur la monde. Je cite d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Claude Pirotte, un grand poète, qui juste avant de mourir, alors qu'il était dans un terrible cancer, tout ça, il disait la poésie a un parfum de résurrection. Dire ça quand on aborde la mort, ça veut dire c'est très fort, je pense. Il savait que à chaque fois qu'il lisait un poème, quelque chose en lui renouait avec la vie profondément, avec la jeunesse de la vie.
On est entièrement d'accord, Jean-Pierre, là-dessus. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons fait une émission sur trois poètes. Et le lien qui unissait en définitive ces trois poètes, c'était cette intuition de l'espérance. Jean-Pierre, vu l'heure, je vais te demander maintenant de nous faire entendre tes œuvres. De bien vouloir lire des textes, des poèmes, parce qu'on n'a pas suffisamment entendu quand même oui. la voix poétique de Jean-Pierre Siméon.
Alors écoute, je peux lire un poème par exemple de politique de la beauté. On peut lire le premier poème, que je vais ouvrir le livre et je vais lire le premier poème. Chaque matin, simplement, reparlons-nous du bonheur. Comme chaque matin, on remet ses chaussures, pour n'avoir pas dormi en vain, pour donner un paysage à nos blessures, pour faire signe à la flambée du jour. Mais surtout, en parler en silence, n'y pas toucher davantage qu'à l'aile du papillon. Que sera le bonheur donc ? Non pas la récompense promise, non pas l'oiseau dans les cheveux, plus simple et plus terrible le bonheur. Peut-être le premier sourire du plus perdu d'entre les hommes, après qu'il est sorti du charnier, le corps et l'âme en sang, quand le jour silencieux le prend entre ses bras. Reparlons-nous du bonheur. Voilà le premier poème de politique de la beauté. Et alors peut-être je peux lire le deuxième, par exemple. Dont tout visage est un seuil. Et si je t'aime, toi dont les yeux ouvrent sur un jardin, c'est qu'en toi je franchis les déserts qui me séparent de la beauté. Ce qui sépare de la beauté est ce qui sépare du monde. Car la beauté n'est point seule. Présence partagée et qui jaillit au centre des heures dispersées comme un soleil dans la nuit. Car la beauté est ce labeur de corps et de langage où commence le monde. Et là seulement, quand il prend dans un visage forme humaine, quand il est entre les lèvres le souffle dont tremble la parole et qui rompt la coutume. Voilà deux poèmes de politique de la beauté. Je peux vous lire des poèmes de, par exemple, du livre paru en poche chez Gallimard dont tu parlais tout à l'heure, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Alors, dans ce livre, il y a plusieurs recueils rassemblés. Je peux vous lire un poème. Attendez, je vais chercher un poème qui doit être dicté de fresques peintes sur un mur obscur, je crois. Alors, je vous lis ce poème. Ainsi se décide l'impossible comme une caresse. Entre le monde et l'amour, le lien est d'eau qui tremble. Tes mains sont un fruit autant que la rondeur de l'été. Et la révolution et les désastres sont l'œuvre d'un regard ou d'un baiser demeuré vide. Tout désir est une enfance revécue au bord d'un ruisseau. Toute vaillance dans le pas est nouée au soleil, au sommeil le plus chaud. Ainsi l'avenir, cet ordinaire du pauvre, est la trace indécise d'une main sur la peau. Voilà. voilà ce poème. Je peux vous en dire un autre dans le même recueil, s'adresse, j'écris ça à propos de tous ces gens qui ne lisent pas de la poésie, qui ignorent la poésie. Ceux à qui manque le poème, le ciel du dessous. Comment s'y prennent-ils avec ces choses, l'obscur et l'impérissable? Et quel usage font-ils des nuits qui tombent de l'épaule après l'amour? Dans le danger des jours, hommes dispersés, effarés, butant au cercle du vacarme, comme un loup dévoré par son ombre. Ils nient, ils rongent, ils tranchent, ils ont un cœur inaccessible. Leurs yeux ne voient que ce qu'ils croient. Voilà ce poème-là. Et puis, on en parle tant de questions d'un autre poème.
Oui, oui, oui.
Alors, par exemple, je vais lire toujours dans ce recueil « Lettre à la femme aimée au sujet de la mort », qui est le titre générique, hein, mais pas le titre de chacun des... Attendez, je vais chercher... voilà, celui-ci. « Puisqu'il nous faut marcher avec un couteau dans les reins, et que notre souffle déjà est inscrit au registre des morts, notre seul talent sera l'imagination et son crible qui retient dans le fatras des volontés et des doutes une forme heureuse. On doit grandir inconsolé de sémaphore en sémaphore, d'un horizon masqué vers son pas le plus proche. Qui de nous n'invoque dans un amour terrestre la franchise des astres, comme un voyageur marin qui sait pourtant combien le presse la fureur des vagues? Il faut nous vêtir dans l'été de la constance d'aimer, nous couler à l'épaule muette, admirer l'admirable et sa douleur faible. » Voilà, ensuite peut-être un dernier poème. « Seul celui qui aime voit clair dans le siècle, où la pauvreté est robuste, où le danger colle aux dents des peuples comme une eau sèche. Seul celui qui aime existe devant les lèvres brûlées et la rage qui grandit entre l'os et la peau comme une graisse. Seul il tient dans l'hégémonie, parmi la foule des gémissants, sous l'œil de l'histoire, son verdict de nuée et de flamme. Seul à ne pas s'absoudre dans le gémissement obscène des fauteuils. Seul celui qui aime et qui porte, quoi qu'il en soit du sang tombé, un hymne dans sa voix. » Voilà des poèmes. Est-ce que, Christian, tu en veux un inédit maintenant?
Oui, oui, ça, avec grand plaisir. Hein.
On a encore une minute?
Oui, 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 certes.
Alors, je peux vous lire, par exemple, le premier poème, qui c'est un poème en exergue de ce nouveau livre qui s'intitule « Levez-vous du tombeau » qui paraîtra dans quelques mois. D'accord?
Oui, merci.
Il va falloir enfin que la poésie gouverne, elle qui n'a ni pouvoir ni assurance, elle dont la pensée est tantôt cheval de steppe, tantôt poignée de mésange jetée au vent. Il va falloir s'attabler à son désordre, étant donné les ordres, des ordres hautement désirables, seule liberté qui ne soit pas soluble dans l'excuse. Assez d'assigner toute chose à nos desseins, arbres, rochers, pluies, abeilles et rivières. Il s'agit de les libérer de l'idée, et selon la loi d'Orphée, de reconnaître en elles les maîtresses d'un champ que nous ignorons. À ce point de l'histoire, plus de doute, nous sommes les violents. La vanité interdisant l'amour, nous n'avons fait que saisir sans étreindre. Seul le poète n'est pas l'usurier de la vie. Il donne sans rétribution, mais il ne donne que ce qui ne se possède pas. Il va falloir combattre des mains, des yeux, des lèvres, la laideur d'actes et d'intentions, dont sont la cause la puérile peur du vide et toutes fins qui ne sont pas d'amour. Le poète n'a que des rébellions amoureuses, c'est-à-dire sans égard pour les chaises bavardes. Il n'est pas même l'ennemi de ses ennemis. parce qu'ils ne mangent pas de leur main, de leur pain amer. Ces colères souvent sont joyeuses et rondes comme clairières dans la forêt. Tu es le poète, ô Lorca, la poésie renaît dans le soleil qui suit. Sous le gouvernement de la poésie, la laideur, bien sûr, comme toujours, aurait sa part. On n'échappe jamais tout à fait aux mollesses du cœur. Mais la vie, simplement, serait à chacun le seul objet de son désir. Voilà, un poème inédit.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, dès que ce livre paraîtra, bien entendu, nous serons de faire quelque chose, si tu le veux bien.
Oui, volontiers.
Autour de ce livre et peut-être aussi autour des autres livres de poésie que tu as publiés et dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir. En tout cas, je te remercie infiniment. C'était un grand moment. Merci beaucoup, donc, Jean-Pierre Siméon. À très bientôt.
À bientôt à tous. Merci du temps accordé à la parole chez vous. C'est rare, hein.
On va continuer.
Vous continuez bien. Amitié à tous.
À bientôt.
Au revoir.
Amitié à toi, Jean-Pierre. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous disons à la semaine prochaine. À 10 Hertz.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas. C'est selon la saison, ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups. Thank you.